Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce vendredi 14 mai, bas les masques. Si vous êtes vacciné, vous n'avez plus besoin de le porter. Ce sont les mots de Joe Biden, le président des États-Unis. Mais est-ce bien raisonnable? Pourrait-on imaginer la même chose ici? Nous serons en ligne avec le docteur Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Un policier de 51 ans grièvement blessé à Rive-de-Gier dans la Loire. Il a été touché à la tête par une bouteille en verre alors qu'il intervenait pour des tapages nocturnes et des tirs de feux d'artifice. Toujours pas de traces du fugitif des Cévennes. Troisième jour de recherche avec de gros moyens. L'appel émouvant à la reddition lancé par son père hier n'a rien donné. La manifestation pro-palestinienne interdite à Paris demain. Polémique et recours. La France insoumise s'indigne. Les organisateurs ont déposé un référé. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, campe sur ses positions. Kalos Irsate, ça veut dire bienvenue en grec. Le pays lance sa saison touristique aujourd'hui, après 7 mois de confinement. Et puis le coup de cœur de nos correspondants nous emmènera en Bretagne, dans la foulée d'un amateur de trail. Il veut boucler le GR34 en moins de 30 jours et établir un record. La météo, bonjour Claire Delorme.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Le ciel devient plus lumineux dans le sud-ouest, hein, uniquement, mais enfin c'est déjà ça.
Ah, c'est sûr, on ne va pas se priver de la moindre parcelle de soleil, surtout lorsqu'il se fait rare en cette saison, donc ça sera en effet beaucoup plus lumineux vers le sud-ouest avec des averses qui vont se raréfier, averses qui seront beaucoup plus nombreuses au nord de la Seine, vers l'Alsace et vers les Alpes, qui pourront d'ailleurs tourner à l'orage, donc soyez bien prudents. Et puis par contre, en Méditerranée, beau temps, à l'exception de la Corse, avec des températures qui vont osciller entre 13 et 17 degrés du nord au sud.
La question du jour sur RTL.fr, seriez-vous prêt à poser votre masque une fois vacciné? Ben vous êtes très partagé, on sent que c'est une question complexe. Il y a 48% de oui, 46% de non. On attend vos arguments au 32-10.
Ça fait peur, effectivement.
Non, c'est intéressant.
Comme tout ce qui fait peur, vous ne voudriez plus l'avoir en permanence peut-être sur vous. Donc, vous pourrez répondre à cette question. Seriez-vous rassuré si vous l'enleviez du jour au lendemain? Manifestement non. Les Américains vaccinés contre le Covid-19 n'ont plus besoin de porter le masque. Vous l'avez dit, on va en parler longuement. Il y a 10 ans, le début de l'affaire DSK secouait le monde politique. Est-ce que vous avez envie d'y revenir? Et puis Claire le rappelait, on n'a vraiment pas de chance. C'est le week-end, pour la première fois, on a quitté Paris pour certains. Et il ne fait pas beau, donc c'est un week-end maussade. Et il fait froid en plus.
Ouais,
donc
le meilleur est à venir, je vous promets.
Bah, écoutez, c'est le pire est toujours certain. Donc vous pourrez parler du temps, ce qui est finalement la conversation qu'on préfère et sur lesquelles on s'engueule le moins. Donc ça peut être intéressant. À tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
Et pour commencer, donc, ce policier grièvement blessé à Rive-de-Gier dans la Loire. Il intervenait cette nuit dans le quartier du Grand Pont lorsqu'il a été touché à la tête par une bouteille en verre. Guillaume Chies, vous avez des précisions?
Oui, lui et son équipage sont appelés aux alentours de minuit pour tapage nocturne et tir de feu d'artifice. À leur arrivée, un groupe d'une quinzaine de jeunes est rassemblé et dès l'intervention des forces de l'ordre, la situation s'envenime. Les policiers reçoivent des tirs de projectiles. Une bouteille en verre touche le fonctionnaire de 51 ans à la tête. L'homme s'effondre sur place. Inconscient. Des renforts arrivent, les auteurs prennent la fuite. Le policier blessé a été emmené à l'hôpital dans la nuit. Il a été opéré pour un hématome sous-dural, une opération qui, selon les premières informations données en fin de matinée, s'est bien déroulée, mais le fonctionnaire est toujours dans le coma, dans un état grave. La préfecture fait savoir que son pronostic vital, en revanche, n'est plus engagé. En parallèle, une enquête est en cours dans le quartier du Grand Pont, à Rive-de-Gier, pour retrouver les auteurs.
Récit Guillaume Chies. Troisième jour de traque dans les Cévennes, dans une zone boisée de 15 km² et toujours pas de traces du meurtrier présumé de ce patron et d'un de ses collègues dans une scierie des plantiers. L'homme est lourdement armé, habillé en treillis, il connaît bien le terrain. Hier, son père lui a lancé un appel déchirant. « Il n'y aura pas de feu si tu te rends maintenant », a-t-il dit. Hugo Hamelin, vous êtes devant la maison où Valentin Marcon a grandi, à Brignon, dans le Gard, à une 40 km des lieux du drame, et toute la famille s'est réunie.
Oui, une famille complètement bouleversée par l'horreur, la brutalité des faits reprochés à Valentin Marcon. Sa femme et sa fille de 1 an ont donc trouvé refuge dans cette bastide Cévenole qui borde un ruisseau autour des parents, du père du jeune homme, loin des hélicoptères et des militaires du GIGN, avec qui ils sont pourtant en contact permanent, hein, bien sûr, pour aider à désamorcer un face-à-face, une rencontre, dès que le fugitif sera localisé. Une famille qui vit dans l'attente, dans l'angoisse, calfeutrée entre quatre murs, alors qu'à 40 km de là, les recherches se poursuivent. 350 gendarmes fouillent les cavités, les anciennes bergeries de cette montagne où la végétation est très dense. Le numéro 2 de la gendarmerie nationale est descendu de Paris ce matin pour piloter cette traque qui se transforme chaque jour un peu plus en marathon. Toujours aucune trace ce midi de l'homme le plus recherché de France, 3 jours désormais après ce double homicide.
Hugo Hamelin dans le Gard pour RTL. Le village des Plantiers est toujours confiné. 4 familles ont demandé à être exfiltrées. L'armée israélienne n'est finalement pas entrée dans Gaza, mais elle continue de pilonner la zone. L'escalade militaire depuis lundi a fait plus de 100 morts, si l'on en croit les islamistes du Hamas. À cela s'ajoutent des émeutes dans les villes mixtes d'Israël, d'où cohabitent juifs et arabes. En France, une manifestation pro-palestinienne prévue demain a été interdite à Paris à la demande du gouvernement, qui fait valoir des risques de troubles à l'ordre public. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est justifié ce matin.
Paris a connu un moment particulier en 2014, chacun se souvient, des cris de mort aux juifs qui étaient prononcés dans les rues de Paris. Tout à fait inacceptable, ignoble. Et nos compatriotes juifs doivent être protégés, d'autant plus que samedi, il y a des fêtes religieuses. Et donc j'ai pris la décision de demander au préfet de police d'interdire cette manifestation, vu les renseignements que nous avions, qui ne pouvaient pas se passer dans de bonnes conditions. Il ne peut pas y avoir de manifestation antisémite en France. Le conflit israélo-palestinien est un conflit évidemment extrêmement touchant pour la plupart de nos compatriotes, mais il ne doit pas s'exporter sur le territoire national. Et je veux dire que nous ne devons pas revivre les scènes ignobles de 2014 dans les rues de Paris.
Alors, on entend bien la fermeté du gouvernement. Alice Moreno, comment le préfet de police a-t-il motivé son arrêté d'interdiction ?
Eh bien, il pointe le très grand risque d'exaction contre des synagogues et des intérêts israéliens. Il fait référence aux manifestations qui se sont déroulées la semaine dernière en Allemagne. Des slogans antisémites ont été scandés lors d'un rassemblement, notamment des pierres ont été lancées sur des synagogues. Mais bien d'autres manifestations se sont aussi déroulées normalement. Didier Lallement précise qu'une forte mobilisation est attendue ce samedi avec des soutiens hétérogènes. Parmi eux, dit-il, de nombreux éléments à risque qui vont chercher les affrontements avec les forces de l'ordre. Il rappelle qu'en juillet 2014, des manifestations parisiennes contre les offensives israéliennes avaient dégénéré. Pourtant, ces manifestations étaient déjà interdites à l'époque. C'est donc un rassemblement non déclaré qui avait donné lieu à des affrontements. L'association organisatrice de la manifestation parisienne a déposé un recours contre l'interdiction qui sera examiné cet après-midi par le tribunal administratif de Paris. Les juges devront déterminer s'il y a suffisamment d'éléments qui prouvent le risque de troubles à l'ordre public.
Cette interdiction a déclenché une polémique politique. La France insoumise dénonce une provocation, une atteinte à la démocratie. Manuel Valls lui approuve cette décision, comme certains membres de la majorité, et plus largement la droite et l'extrême droite. Les organisateurs, vous le disiez Alice, vont déposer des recours. Ils espèrent obtenir aujourd'hui l'annulation de cette interdiction. Maître Henri Leclerc, le président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, est choqué par cette décision.
Je trouve toujours très très grave d'interdire les manifestations. Aujourd'hui, il y a à travers le monde, partout, des manifestations dans tous les pays sur ce sujet. La France interdit la manifestation, c'est préoccupant. Alors, l'interdiction de la manifestation, c'est le refus d'une expression collective pacifique. Alors on dira, cette expression peut être l'objet de violence, évidemment. Mais aujourd'hui, toute manifestation, nous le savons, pourrait éventuellement être l'objet de violence. Donc on irait vers une interdiction générale de toute manifestation. Chacun reste chez soi. Et à partir du moment où chacun reste chez soi, les actes ne sont plus des actes publics. Ils peuvent être clandestins, tout ça est absurde. Laissons les gens manifester pacifiquement. Avec, évidemment, ça c'est le problème des forces de l'ordre, avec effectivement la nécessité d'éviter que ça ne dégénère en violence. Mais si on soupçonne que toute manifestation peut dégénérer en violence, il n'y a plus de manifestation.
Laissons les gens manifester, dit maître Henri Leclerc au micro d'Alice Moreno. Emmanuel Macron, lui, passe le week-end au fort de Brégançon dans le Var. Il tiendra ce soir en visioconférence un sommet virtuel sur le terrorisme en ligne avec notamment la première ministre néo-zélandaise dont le pays avait été durement éprouvé par un massacre dans 2 mosquées. Le chef de l'État souhaite obtenir le blocage de ses contenus par les plateformes numériques. Une pause et dans un instant, et si on tombait le masque ?
RTL Midi
avec Christelle Rebière.
Bas les masques aux États-Unis, le président Joe Biden a surpris tout le monde avec cette phrase.
If you've been fully vaccinated, you no longer need to wear a mask. Let me repeat. If you are fully vaccinated, you no longer need to wear a mask.
Voilà, il le dit, il le répète, si vous êtes vacciné, vous n'avez plus besoin de continuer à porter un masque. Un tiers des Américains sont vaccinés aujourd'hui. C'est aussi une façon pour lui d'inciter ceux qui sont encore réticents à aller se faire piquer. Jean Castex, en déplacement ce matin à Auch dans le Gers, affirme qu'il faut tenir, les doses arrivent, ajoute-t-il. Alors, seriez-vous prêt à poser votre masque une fois vacciné? C'est la question du jour sur RTL.fr et vous allez y revenir. Donc Pascal, avec les auditeurs au 3210.
J'ai le droit de vous parler franchement.
Oui.
Non seulement je serai prêt, mais je le revendique. Parmi toutes les contraintes depuis plus d'un an, les restaurants fermés, le cinéma, les théâtres, les piscines, etc., la plus contraignante pour moi, la plus douloureuse, la plus insupportable.
Vous avez du mal à le porter correctement, le masque.
Et ce masque, ce symbole, cette muselière qu'on nous impose et que je porte parce que la loi l'exige, ne plus voir un visage, le sentiment d'être bâillonné, infantilisé. Donc évidemment, j'enlèverai le masque dès que l'exécutif le dira. Mais la peur que j'ai, c'est que ça devienne la norme, notamment l'hiver, en période de grippe. Jean Castex l'a laissé entendre l'autre jour dans Le Parisien. Moi, j'ai le sentiment que nous avons mis le doigt dans quelque chose de mortifère. Croyez-moi, on n'en a peut-être pas fini avec le masque.
Vous pouvez remonter votre masque.
Je le remonte.
Voilà, merci. Et avant d'entendre les auditeurs, écoutons ce qu'en pensent les personnes que vous avez rencontrées ce matin. Étienne Baudu, au vaccinodrome du Vélodrome à Marseille, qui tourne à plein régime. 6000 injections dans la seule journée d'hier.
Alors ici, évidemment, un masque obligatoire dans la file d'attente et à la sortie, 99,9% des vaccinés ressortent masqués. Bernard a reçu ses deux doses. Pour lui, à 70 ans, principe de précaution.
On sait qu'il y a des variantes qui sont redoutables et qui font de l'effet, donc la guerre n'est pas finie. Tant que ça protège, je le garde.
Adrien, lui, est étudiant, il a 19 ans, le masque est finalement devenu une habitude.
En Chine ou au Japon, ça se fait déjà énormément avec la pollution qui est en ville. Franchement, moi, si on l'enlève, ça serait bien, comme ça retrouve un peu notre vie normale, mais sinon, moi, là, ça ne me dérange pas plus que ça pour l'instant.
Alors, une infime minorité ressort sans masque, mais avec toujours une raison valable. Amélie a 29 ans.
Je l'ai enlevé parce qu'on est en extérieur et qu'on n'est pas collé aux autres personnes. Donc bon. Après, à l'intérieur, dans tous les lieux publics, moi au travail, je le mets, il n'y a pas de souci. Ah oui, j'avoue que le porter toute la journée, des fois, c'est assez fatigant. Après, s'il faut le porter, on le porte et puis voilà.
Alors bien entendu, beaucoup vous disent qu'ils attendent avec impatience que la population française soit suffisamment vaccinée pour entrevoir la fin du port du masque. Comme ce couple, lui, comble du lieu de vaccination, il n'attend qu'une chose, revoir un match de l'OM. Elle, c'est plutôt la musique.
Un beau concert comme quand on a vu Johnny, tu te rappelles ? Vivement que tout ça soit fini pour qu'on puisse revivre tout simplement et enlever ce masque. Voilà.
Et ici, le Vélodrome pour l'opération Tous sur le pont est ouvert jusqu'à samedi soir, 9h-17h, masqué bien évidemment.
Étienne Baudu, masqué lui aussi, en direct de Marseille. Alors pour aller plus loin, nous sommes avec le docteur Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches dans les Hauts-de-Seine. Bonjour.
Bonjour.
D'abord, que pensez-vous de cette annonce de Joe Biden alors qu'un Américain sur trois est vacciné ?
Alors d'abord, un peu plus a reçu au moins une dose.
Oui.
Moi, je pense que c'est un bon signal parce que ça veut dire qu'on peut avancer et que le vaccin montre son efficacité pour la collectivité et que les Américains vont, semble-t-il, récupérer un semblant de vie d'avant. Et on a observé les Anglais, qui sont même plus avancés, qui ont montré que la vaccination était efficace en population et avant-hier, il n'y a eu aucun mort en Angleterre.
Mais est-ce que c'est suffisant vraiment si un habitant sur trois est vacciné ? On va bientôt y arriver, nous, ici en France. Hein.
Alors, d'abord, aux États-Unis, c'est très particulier parce que, souvenez-vous, initialement, il n'y avait pas du tout de port du masque. Donc, je pense qu'ils ont une politique sanitaire qui est radicalement différente, avec une population beaucoup plus nombreuse et sur laquelle, logistiquement, sans parler de la géopolitique par les États d'Amérique, rendent les choses compliquées. En France, d'abord, je vous le rappelle, l'HAS a émis le fait qu'on peut se retrouver assise dans une pièce à l'intérieur, ventilée lorsqu'on est vacciné sans masque. Et donc, ça montre bien que la vaccination est efficace et va permettre, dans une certaine mesure, peut-être pas tout de suite, de lever les masques, si je puis dire. Mmh. Et la question qui va se poser à un moment donné, parce que la réalité, qu'est-ce qui bloque ? C'est le contrôle de qui est vacciné et puis qui est pas vacciné. C'est que on se rend bien compte que pour ceux qui sont vaccinés, le port du masque à l'extérieur est probablement ostentatoire.
Essayons d'y voir plus clair concrètement. Quand on est vacciné, docteur Davido, on peut quand même attraper le Covid.
Alors on peut d'abord être vecteur, c'est-à-dire qu'on peut le porter sans forcément avoir de symptômes et malheureusement contaminer avec une proportion beaucoup plus faible parce que la charge de virus est plus faible. D'abord le vaccin c'est pas 100% d'efficacité, hein. Caricaturalement on avait des vaccins efficaces à plus de 90%, ce qu'il faut rappeler d'abord c'est que c'est extrêmement élevé. Et encore une fois, le véritable enjeu, c'est de savoir à combien de pourcents les vaccins sont efficaces pour prémunir des formes graves, c'est-à-dire des formes de réanimation et du décès. Et il n'est pas exclu que dans un futur proche, on se retrouve finalement quelque part tous à se contaminer malgré la vaccination, mais qu'on ne fasse pas plus qu'un rhume et qu'on a justement qu'on vive avec ce coronavirus comme on vit avec d'autres coronavirus chaque saison, chaque automne.
Oui, donc ça veut dire qu'on peut contaminer les autres, mais vous nous dites il y a une faible charge virale, donc on peut poser les masques et se contaminer les uns les autres, ce sera pas si grave au fond ?
Non, c'est pas ça que ça veut dire, parce que d'abord, pour l'instant, tout le monde n'est pas vacciné pour se permettre de dire que c'est pas grave d'être vacciné, d'aller contaminer les autres, c'est pas tout à fait ça, mais ça veut dire que on a une clé, une solution pour, à moyen terme, pouvoir enlever le masque face au coronavirus. Ce qu'il faut comprendre dans cette équation qui est très compliquée, c'est que d'abord, à l'automne prochain, si jamais on finit la campagne de vaccination convenablement au mois de septembre, on va avoir beaucoup de mal à se dire qu'on va enlever le masque durablement puisqu'on va arriver sur la saison des autres virus. Et qu'à partir du moment où on sera malade, bien on voudra logiquement se tester contre le coronavirus et qu'on a vu que le masque protégeait des autres maladies, des grippes, mais aussi chez les asthmatiques, des maladies respiratoires saisonnières allergiques. Et donc, il faut pas stigmatiser le masque comme étant l'objet démoniaque associé au Covid. C'est un appareil de protection respiratoire qui nous protège. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sera plus dans une situation d'obligation du port du masque. Et je crois que quand on aura atteint cet objectif, il faudra s'en féliciter. Cet objectif ne pourra être atteint que lorsqu'on sera suffisamment vacciné.
Et vous pensez qu'on va garder le réflexe de le garder, ce masque, au fond, ou pas? Ou qu'on sera pressé de s'en défaire?
Mais c'est ça un petit peu le problème,
partagé,
quelque part.
Hein.
C'est-à-dire... Exactement. C'est-à-dire que moi, ce que je pense, c'est qu'il faut différencier l'obligation du port du masque et la recommandation. Et que je pense que si on arrive à une vaccination suffisante, c'est-à-dire caricaturalement plus de 50% de la population, on pourra se trouver dans une situation où on sera dans un principe de précaution, donc de recommandation. Et clairement, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frein à la vaccination. Il faut rassurer les gens face au fait que les vaccins sont efficaces, y compris face aux variants, et qu'encore une fois, l'objectif, c'est de bloquer les hospitalisations et que là-dessus, la vaccination, quelques vaccins que ce soit, quelques marques, est efficace. Et donc, on va y arriver. Et une fois qu'on aura atteint cet objectif, c'est-à-dire plus de saturation à l'hôpital et donc plus de mesures de confinement et tout ce qui va avec, à ce moment-là, on ne sera plus dans une obligation du port du masque.
On va y arriver, c'est le message positif du jour. Merci docteur Davidot d'avoir été l'invité de ce journal. Sachez aussi que par mesure de précaution, la quarantaine obligatoire pour entrer en France est étendue ce matin à 4 nouveaux pays, la Colombie, Bahreïn, l'Uruguay et le Costa Rica. Dans un instant, un air de vacances.
RTL. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Un parfum de sauge et d'origan, mais surtout de liberté. La Grèce lance sa saison touristique aujourd'hui après 7 mois de confinement. Nous laissons derrière nous les nuages noirs de la peur et de l'insécurité, proclame le ministre grec du tourisme de manière assez théâtrale. Le pays prépare activement l'été, Alexia Kefalas.
Oui, depuis ce matin, il y a déjà quelques visiteurs devant le célèbre musée de l'Acropole au pied du rocher sacré, comme Stuart, venu de Londres et affichant clairement son certificat de vaccination.
Ça fait tellement de bien d'être ici. Il fait chaud, on va au musée de l'Acropole, à la plage, c'est la liberté. Enfin.
À l'intérieur du musée, les guides retrouvent le sourire comme Angélique Mantzola, qui est aussi archéologue.
Je suis tellement contente de reprendre le travail. Depuis quelques heures, tout s'accélère. On me téléphone, surtout de France, pour planifier des visites ou pour initier les enfants à ce que le berceau de la civilisation occidentale.
Le tourisme, c'est l'un des poumons de l'économie grecque. 1 emploi sur 5 au total. Donc sauver la saison est l'un des plus gros paris du pays, qui a accéléré le rythme des vaccinations pour recevoir un maximum de visiteurs en toute sécurité. Déjà, les habitants d'une centaine d'îles du pays ont été entièrement vaccinés.
Alexia Kefalas à Athènes pour RTL. Et le 19 mai en France, au moment où on sera pressé de faire la fête et où les restaurants et les commerces vont rouvrir, pourquoi ne pas penser aussi aux soignants durement éprouvés depuis plus d'un an? Le professeur Yas Dampana, membre du conseil scientifique, a fait une proposition ce matin sur RTL.
Il y a une étude qui a été faite dans 20 réanimations qui montre 50% des personnels ont des troubles anxieux, 30% ont des syndromes dépressifs. Et c'est vrai que je regrette le fait, à un moment donné, on applaudissait tous les soirs,
à 20h.
Je trouve que ça serait bien, par exemple le 19, quand on ouvre les terrasses à un certain nombre de cinémas, théâtres, etc., qu'on applaudisse un soir à 20h les soignants, ça leur fera plaisir. Et ils ont besoin, après un an et demi, d'un peu d'énergie.
Des applaudissements le 19 mai pour les soignants, pourquoi pas, proposition de professeur Yazdan Pana, qui était interrogé par Jérôme Florin ce matin.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et nous partons en Bretagne sur le GR34. Les amateurs de randonnée connaissent ce parcours de 2000 km entre le Mont-Saint-Michel et Saint-Nazaire. Mais cette fois, le trailer Jérémy Dédouet compte le parcourir en 30 jours, voire 25, et établir un nouveau record. Et ça, ça vous impressionne, Patrice Gabart?
En effet, amoureux de sa région, la Bretagne, et pour illustrer à sa manière l'énergie qu'elle dégage, le trailer l'orientait. Jérémy Dédouet, 31 ans, se lance un sacré défi. Départ samedi matin, 8h, de la station SNSM du Mont-Saint-Michel.
Au moins de 30 jours, ça fait une moyenne de 60 km par jour. Mais moi, mon objectif, c'est d'en faire 85. Donc c'est deux marathons, en fait. Un marathon le matin, un marathon l'après-midi. Des moments, j'en ferai davantage, des moments, j'en ferai moins. En fonction des conditions de météo, de ma forme à moi aussi. Le soir, c'est tout de suite la récupération. J'ai des kinés qui vont passer me voir aussi. Des chaussettes de compression pour aider le retour veineux. Des pieds dans l'eau de mer, ça fera pas de mal non plus.
Car la mer n'est jamais loin entre Perros-Guirec, Morlaix, Brest, Douarnenez, Concarneau, Pont-Aven, Quiberon, La Baule ou encore Saint-Nazaire, le terminus. Pour tenir le coup, ce sera 6 à 7000 calories par jour. Son péché mignon, les barres de protéines de Grillon, suivi par sa compagne au volant d'un van et Léonie, sa fille de 6 mois. Jérémy Dédouet court aussi pour mettre en avant le travail des bénévoles de la Fédération Française de Randonnée qui entretiennent tous les sentiers à travers la France et ceux de la SNSM dont il portera les couleurs. Arrivée prévue au plus tard le 13 juin à Saint-Nazaire.
Et on suivra attentivement le parcours de Jérémy Dédouet. Ils ont été battus, mais c'était tout de même un exploit. Les footballeurs amateurs de Rumilly-Vallières, dont on parlait hier, ont été éliminés par Monaco en demi-finale de la Coupe de France 5-1. Mais les joueurs monégasques leur ont quand même fait une levée d'honneur. Et ces derniers sont repartis avec une victoire et du reblochon. On retrouve Pascal Pro qui remet son masque correctement jusqu'aux yeux.
Comme ça, c'est splendide.
Quel mauvais esprit.
Pas du tout. J'ai adoré votre petit dialogue avec Monsieur Davido. Quand vous lui dites on est partagé, je vous dis qu'on va l'avoir le masque. Toujours et tout le temps maintenant. Je vous le dis depuis le départ.
Franchement, la question qu'on pose aux auditeurs ce matin, elle est extrêmement intéressante.
Bien sûr.
Parce qu'ils sont, presque à 55 ans.
Mais c'est pour ça que je vous le dis.
Prêts ou pas à le poser.
Mais il y a beaucoup de gens. Pourquoi je vous dis qu'on va l'avoir tout le temps? Parce que vous avez des gens qui le veulent. Et ça va être imparable dans une entreprise. Quand les salariés vont aller voir le DRH ou la direction générale et vont dire « je ne veux pas prendre les miasmes de monsieur ou de madame durant la grippe », c'est imparable. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est imparable. Donc tout le monde, moi je vous dis, on est dans une logique mortifère où ça sera très compliqué, je parle vraiment dans le travail là, je parle dans le travail, ça va être très compliqué de dire... Mais qu'est-ce que vous voulez dire à quelqu'un? On a, effectivement, vous n'avez pas à prendre le grippe ou le rhume de votre voisin. Tout s'entend toujours. Moi, je n'aime pas cette société, mais d'autres préfèrent peut-être une société hygiéniste, avec le sanitaire
permet,
à 100%.
Ça permet aussi d'attraper d'autres maladies, comme le rappelait le docteur David.
Je pense depuis le départ que le remède est pire que le mal, mais je suis minoritaire souvent sur ces... Sur ces positions-là.
Ça va être intéressant d'entendre des auditeurs qui ne sont pas d'accord avec vous.
Mais c'est le, généralement, c'est le principe les gens, sont, voilà, ah, les gens voilà. sont rarement d'accord avec moi.
On parle
ça
de météo,
nous a pas échappé.
Parce que Claire Delorme est toujours avec nous. Claire, franchement, toujours un peu décevante hein, pour ceux qui ont décidé de s'échapper ce week-end.
Ah, il est vrai que la météo est assez capricieuse en ce mois de mai et pas vraiment au diapason du calendrier du déconfinement. Donc, en effet, on va avoir une petite amélioration vers le sud-ouest avec davantage d'éclaircies, mais quelques averses ne seront pas à exclure. Là où le ciel sera bien lumineux, ce sera tout le long de l'arc atlantique. Par contre, les averses et les passages nuageux vont surtout dominer le nord du pays. L'est également jusqu'au niveau des Alpes avec des averses à caractère orageux. La Méditerranée, quant à elle, profitera des plus belles éclaircies à l'exception de la Corse qui, elle, restera bien bouchée, bien chargée avec encore pas mal de pluie. Et puis côté température, on est encore très largement en dessous des normales de saison. Ça ne décolle pas entre 13 et 17 degrés globalement avec 14 degrés à Brest, 15 degrés à Paris ou encore 17 degrés à Lyon.
Bon, et pour ce week-end, enfin ce qu'il en reste, on va pas se mentir, c'est pas terrible.
Oui, bah soyons clairs, oui, en effet, c'est le défilé des perturbations, puisqu'en effet, dès cette nuit arrivera donc une nouvelle perturbation par la pointe bretonne. Elle va par contre très vite traverser la France dans la journée de samedi, d'ouest en est. Donc à l'arrière, surtout vers la Bretagne, la Normandie, on va retrouver quelques éclaircies, mais là aussi, de bonnes averses. Les pluies seront bien soutenues en Aquitaine, beaucoup plus faibles vers le nord-est, et puis donc la Méditerranée, ça va se couvrir progressivement, mais à partir de dimanche, ça va retrouver un ciel un petit peu plus lumineux, alors que l'instabilité va quand même dominer encore toute la journée dominicale pour conclure ce pont de l'Ascension.
Voilà, merci quand même, Claire.
Avec plaisir.
On fait une pause, il va être 13h, le rappel des titres, et ce sera à vous au 3210, appelez-nous.
RTL.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Le masque, est-ce que vous êtes prêt à poser votre masque une fois vacciné? C'est la question du jour. Nous sommes déjà avec Christophe. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes prêt?
Bah, moi je suis déjà prêt. Si déjà on commençait par l'enlever à l'extérieur, avant même de parler à l'intérieur, ça serait très bien.
Ah, donc vous êtes effectivement pas, j'allais dire pas peureux, mais en tout cas vous êtes rassuré à l'extérieur. En tout cas c'est une discussion, et Christelle le disait, qui passionne bien évidemment, qui est assez d'ailleurs passionnelle.
C'est déjà bien empoigné.
Mais non,
les
mais elle est passionnelle, vous voulez, je dis, c'est la vie. Et la vie c'est le débat, ou le débat c'est la vie.
On est d'accord.
Le flash et le rappel des titres plus exactement.
Avec ce policier de 51 ans grièvement blessé à Rive-de-Gier dans la Loire, il a été touché à la tête par une bouteille en verre alors qu'il intervenait pour des tapages nocturnes et des tirs de feu d'artifice. Toujours pas de traces du fugitif des Cévennes, troisième jour de recherche avec de gros moyens. Plusieurs centaines de gendarmes, des hélicoptères, des drones dans une zone boisée de 15 km². L'appel émouvant à la reddition lancé par son père hier n'a rien donné. La manifestation pro-palestinienne interdite à Paris demain, polémique et recours. La France insoumise s'indique. Les organisateurs ont déposé un référé. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, campe sur ses positions et promet que de nombreux policiers seront mobilisés dans la capitale. Une nouvelle mesure de précaution face à la pandémie, la quarantaine obligatoire pour entrer en France, est étendue aujourd'hui à 4 nouveaux pays, la Colombie, Bahreïn, l'Uruguay et le Costa Rica. Les Jeux Olympiques de Tokyo en pointillé, le Japon étend son état d'urgence à 3 départements supplémentaires face à la recrudescence de la pandémie. À 10 semaines seulement de l'ouverture des Jeux, une pétition réclame l'annulation de la compétition.